L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Bonsoir. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous recevons Joseph Less, qui nous vient du Mozambique. Et je suis avec Marie-Claude Kiakeza et Guylaine Dubois.
Bonjour, Jérémy.
Bonjour à tous.
Jérémy Ziri.
Jérémy,
c'est bien.
Et bonjour à José.
Bonjour, bonjour Marie-Claude. Bonjour.
Voilà, donc José va se présenter.
Ouais.
Il va nous dire un peu d'où il vient.
Et puis... il va nous transporter un peu loin, d'ailleurs, hein, Jérémy.
Beaucoup, ouais. Allez, José.
D'accord, c'est parti. Bah, écoutez, moi, je m'appelle José. Ouais. José Fless. Je suis né en Mozambique en 1968. Et alors, je pense qu'il était question là des prénoms et des noms. Alors, moi en France, je suis arrivé ici en 89. Ouais. Je parlais à peine français. Enfin, j'avais appris 8 mois de français intensif au Mozambique. Mm-hmm. Et donc, je m'étais retrouvé donc à Place d'Italie en mois de février. Et donc, en débarquant ici, j'étais assez déçu de parce qu'on m'avait appris que à l'aéroport Charles de Gaulle était rond. Ouais, d'accord. Et donc moi, je me retrouve sur le tarmac, loin de ce côté rond. J'imaginais que j'allais rentrer là-dedans. Donc mon avion allait atterrir là-dedans. Donc c'était la première déception en arrivant en France. Et donc je suis venu ici grâce ou à cause d'un monsieur qui est déjà mort, qui s'appelle Jacques Chirac.
Ouais.
Quand il a été premier ministre en 86, il s'est dit l'Afrique australe. En Afrique australe, il n'y a aucune influence française. Mmh. Et donc, parce que là, vous avez une douzaine de pays qui sont... Il y a un pays lusophone, donc a été colonisé par le Portugal. Mmh. Et les 11 autres pays ont été colonisés par l'Angleterre. D'accord. Et donc, Jacques Chirac, il s'est dit en 86, comment néocoloniser cette partie-là, parce que la France n'est pas présente. Donc, l'idée était de le projet était de réintroduire le français qui avait été aboli en 75 à l'arrivée des communistes, enfin d'un président qui est très connu d'ailleurs dans le monde qui s'appelle Samora Machel. Mm-hmm. Et donc il avait décidé donc, d'arrêter donc, le français. Et en 86, en 87, on a décidé qu'il fallait qu'on prenne des élèves qui avaient eu le bac, qui viendraient en France pour faire leurs études, 2 ou 3 années d'études, pour ensuite retourner au Mozambique, réintroduire le français. Mmh. Donc moi, j'ai fait partie de ce premier groupe d'étudiants venus ici, forcés d'abord, parce que menacés de choisir entre la France ou faire l'armée au Mozambique, alors qu'à cette période, il y avait encore la guerre civile. Mmh. Donc le choix n'a pas été facile, hein, mais bon, je suis venu ici, j'ai décidé de venir ici, donc j'ai passé 8 mois... à l'Institut d'enseignement du français donc au Mozambique. Et donc, après Paris, on m'a envoyé à Vichy.
D'accord.
Donc, je suis un enfant de Vichy, un enfant de Clermont-Ferrand. Donc j'arrive, je devais apprendre. Vichy, c'est une ville de 35 000 habitants avec des drapeaux français tous les ans. Mmh. Donc, vous imaginez ce que ça signifie. Ouais, bon, je ne veux pas faire de commentaires sur Vichy, mais je connais très bien. J'adore la ville.
Ne parlons plus de Vichy.
Mais la grande époque est là.
Ouais.
Et donc, voilà, je ne sais pas si ça suffit comme présentation, parce que la présentation, elle est longue.
Oui. Non, mais c'est assez bien. Maintenant,
oui, oui, donc c'est bien. Et c'est vrai que c'est important, enfin, d'autant que le Mozambique, José vient d'y faire allusion, il y a eu quand même des guerres, et notamment une guerre aussi pour chasser les colons, les Portugais, parce que c'est un pays qui a été occupé par le Portugal, les Portugais. Un des quelques pays africains, il y en a très peu. Hein, il y a
On a le Mozambique, l'Angola, le Cap-Vert, le Saint-Thomé, et la Guinée-Bissau.
Voilà, exactement. Et donc, c'est important de savoir qu'on sait que Chirac a fait quand même quelques discours, n'est-ce pas, Jérémy, pour essayer de, justement, un peu de reconnaître toute l'exploitation de l'Afrique par la France. Et donc, je suis ravie, je connais Jérémy depuis... Je connais José depuis longtemps. Je suis ravie de savoir que c'est quand même... Voilà, que c'est par... Oui. Et que c'est par ce chef d'État qu'il a pu venir en France. Parce qu'il va vous expliquer. Il est toujours là, vous avez constaté.
Il va y rester.
Voilà.
D'accord. Alors, ces études, vous apprenez le français. Donc, et puis, ça aboutit à quoi?
Alors, moi, je fais des études. Donc, j'apprends le français et langue étrangère à Vichy pendant un an. donc de février à juillet. Et là, on me donne des vacances pour partir en Mozambique, aller faire un tour. Mmh. Et au retour, on nous fout à Clermont-Ferrand, à l'université, donc pour faire des études de lettres modernes. Vous imaginez le bordel que c'est.
Ah oui, puis en Afrique, se retrouver à Clermont-Ferrand.
On est là, donc à Clermont-Ferrand, à apprendre le français. Enfin, moi, personnellement, quand je suis arrivé ici, mon idée était de pas faire du français, mais de faire du droit. J'ai toujours fait rêver de faire du droit. Ce que je fais, d'ailleurs, plus tard. Parce qu'après, j'ai fait un doc de droit, et en même temps que je faisais un doc de lettres modernes.
D'accord.
Mais finalement, pour des histoires de bourse, parce que vous avez une bourse d'État, et qu'on vous interdit de vous inscrire à d'autres filières, donc j'ai fini en fait à la fac de lettres. Mmh. Mais sinon j'avais fait pendant 2 années mon professeur d'histoire était Georges Frêche.
Quelle chance, parce que alors là comme maire je sais pas, mais en tout cas comme prof apparemment
c'était extraordinaire. C'était le top, il était surtout là pour recruter. Ouais. On a été sensible à ça. Et donc je sais pas où j'en étais,
mais tu en étais à l'aboutissement des études français que tu fais.
Donc une fois les études, donc on a fait donc les études de lettres modernes. J'ai fait aussi une maîtrise de sciences de langage et sociolinguistique. Mmh. Je pensais, moi, le but était de partir. Alors, nous, on était une vingtaine quand on est arrivé ici. Et puis d'autres, il y en a eu 40 qui sont arrivés après, les 2 années suivantes. Donc, on était peut-être une soixantaine. Et beaucoup sont rentrés.
Ouais.
Et moi, j'ai décidé de rester.
Waouh!
Voilà.
Et qu'est-ce qui vous fait rester?
Ce qui m'a fait rester, non, c'était juste l'envie d'apprendre. Moi, je trouvais que 3 années ou 4 années d'études après ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire que parce qu'en fait, faut revenir en arrière. Quand j'ai mon bac, moi, en 86, le président de la République décide de fermer la faculté de droit au Mozambique pour subversion. Et donc on se retrouve avec peu de faculté ouverte.
Ouais.
Et donc on nous obligeait à faire de la faculté de lettres, donc pour devenir prof de littérature ou d'histoire. Donc c'est quelque chose qui m'a gêné. Je voulais pas être prof. Enfin, je finis prof de français aujourd'hui, mais j'ai jamais rêvé d'être prof parce que chez moi déjà il y avait déjà 4 profs et je me disais que c'était inutile pour que. Enfin, moi je viens d'une famille de 8 enfants. Je suis le 7e.
D'accord.
Et donc voilà. Et juste pour expliquer l'histoire qui est intéressante, c'est-à-dire que de 1964 à 1974, il y a une guerre civile pour chasser les Portugais, donc du Mozambique, et donc on a les accords en 74, du Mozambique devient indépendant le 25 juin 75. Mais on a pratiqué la même politique qui a été faite en Algérie, c'est-à-dire dès l'indépendance, le 5 juillet 62, on vire tous les Français, il faut qu'ils dégagent. Le Mozambique, on a fait exactement la même chose. On a donné 48 heures aux Portugais pour quitter le pays. Donc les Portugais, ils ont quitté le pays, ils ont tout saboté, ils ont tout détruit, ils sont partis. Et le lendemain, on se rend compte qu'il n'y a ni prof, ni médecin, ni rien du tout. Et donc le président, il est là, il ne sait pas quoi faire. Il oblige tous les jeunes entre 16 et 18 ans à enseigner. Et donc il s'est trouvé que j'avais deux de mes frères et sœurs qui étaient qui sont devenus enseignants le temps de recruter, de former. Donc, vous imaginez donc le bordel. Donc à cette période aussi, donc on supprime aussi l'enseignement du français et on garde l'anglais. Hein. C'est ce que après 10 ans après, Jacques Chirac il essaye de corriger le tir. Alors, est-ce que c'est la néocolonisation? Nous n'avons jamais été colonisés par la France. Mais bon, ce qu'il a fait, je ne sais pas moi ce que ça donne aujourd'hui. C'est vrai qu'il est vrai que moi, j'ai la plupart de mes copains, ils ont des beaux postes, ils sont tous recteurs, et ça se passe bien. Le premier groupe a eu de la chance. Donc les autres, je ne sais pas ce qu'ils deviennent. Mais moi, j'ai décidé donc de rester, de continuer mes études. J'ai fait un 2-1 en sciences de langage et j'ai préparé donc une thèse de doctorat tout en étant chargé de cours à l'université à Paul Valéry à Montpellier. Et finalement, par un acte vraiment manqué, je n'ai pas soutenu ma thèse à 3 semaines de la soutenance, j'ai craqué. Ah voilà, ouais. Donc ça arrive. Ouais. Donc je fais partie de ce groupe des gens qui se disent, voilà, on a un groupe d'ailleurs qu'on appelle l'acte manqué, on se retrouve de temps en temps, tous les trois ans, on se retrouve à Marseille, à Montpellier ou à Paris, et pour parler, on est, il y a 11% des en principe, on parle de 11% des thésards qui craquent à trois semaines, voilà, donc moi je fais partie de ce groupe, et je regrette pas, je pense que c'est pas mal aussi de craquer, j'avais mes raisons, enfin, je me souviens plus, enfin si, je m'en parle ici.
D'accord, ok, ok.
Je voulais faire juste une petite parenthèse sur la colonisation, parce qu'effectivement, et donc je fais aussi référence à Albert Londres qui a écrit un super bouquin sur la colonisation française, et il disait, et je suis d'accord avec lui pour avoir quand même beaucoup vécu dans un pays colonisé par la France, que la France ne se donnait jamais les moyens, et que justement la différence peut-être avec les Anglais, c'est qu'on ne formait pas les autochtones. Et là, ce que nous explique José, c'est que du coup, quand les Portugais sont partis, ils ont fait comme les Français. C'est-à-dire, quand ils sont partis, il n'y avait pas de gens formés, il n'y avait personne pour prendre le relais, etc.
Tout à fait.
Voilà. Et c'est pour ça que souvent, en Afrique, justement, les pays anglophones, je pense au Ghana, tout ça, ont beaucoup plus de... retombent beaucoup plus vite sur leurs pieds. Et voilà. Et je viens de découvrir, grâce à José, merci José, que finalement, le Portugal n'avait pas fait mieux que la France.
Je pense, le Portugal, ça dépend. Je pense qu'il a fait un peu mieux, je veux dire.
D'accord, tant mieux.
Concernant la pierre. Non, je vais parler de la pierre. C'est-à-dire que les Portugais, quand ils ont construit, quand ils ont eu le Mozambique, ils ont vraiment construit, c'est une mégapole de 2 millions d'habitants. Et moi, de connaître déjà les autres pays francophones, je trouve que les Français ont construit des petits villages pour eux, alors que les Portugais étaient venus en Afrique pour y rester. C'est-à-dire qu'ils ont considéré, comme la France a considéré l'Algérie comme un territoire d'outre-mer, les Portugais considéraient tous les territoires d'outre-mer. C'était vraiment des provinces. Donc, ils ont développé le Mozambique. Il y a des grandes villes, 2 millions d'habitants, 1 million d'habitants, des très grandes villes. Et c'est vrai, quand je vois, moi, je sais pas, je vais à Ouagadougou, je me demande où on est. C'est un petit village de chez moi. c'est très grand, le Mozambique. Le Mozambique, c'est 800 000 km². C'est 40 millions d'habitants. Il est vide, le pays. À tel point que Google a acheté des millions d'hectares et qui sont cachés et que personne n'y accède.
Ah.
Voilà. Donc on garde la nature bien vierge.
Bon, voilà. Donc, Jérémy et Guylaine, on ira à Maputo.
Vous êtes bien vus.
Avec notre guide.
Bien, alors, vous avez craqué comme tous.
Ouais.
Pour les raisons que vous connaissez, que vous regardez. Et moi, ce qui m'intéresserait, après que cette étape, comment vous rebondissez après pour vous intégrer dans le tissu social, professionnel de la ville de Montpellier?
Oui, moi, la ville de Montpellier, alors moi, c'est juste une personne qui m'a introduit dans la communauté montpelliéraine, que j'ai croisée par hasard, qui s'appelle Irénée Dombouet. Alors moi, j'arrive ici en 90, je ne connais personne. Et donc, je connais quelques personnes. Je connais un Tchadien, et puis avec qui, je pense que tu connais, Obedji Mbayoraroi, mais bon. Je crois ce monsieur, parce que c'était lors d'un déménagement. C'est assez bizarre, j'étais lors d'un déménagement. Je sais pas, je ne vais pas en parler de...
Oui, si tu veux.
Lors d'un déménagement chez une dame, et là, je croise Irénée. Et je vois ce monsieur avec une bouille extraordinaire, et qui ressemblait un peu à mon frère. C'est arrivé que quand on a échangé, en fait, il s'est trouvé qu'il était né la même année que mon frère est né. Et donc voilà, je l'ai adopté comme mon grand frère. Il est devenu ensuite le témoin de mon mariage. Je l'ai eu ce matin, mon téléphone, on s'appelle tous les jours. Et on s'aime. C'est grâce à Irénée Dombouet que je connais toute la communauté. C'est-à-dire que j'étais à la Maison des Tiers-Monde, où j'ai fait partie de collectif des Africains, le CAM, des Africains de Montpellier, en 92, 93. Et puis j'avais pas mal milité.
Non, mais c'est bien.
Ouais.
Oui. Donc voilà, je dirais à Irénée qu'on a causé de lui. Surtout que samedi 10, là, il va être le parrain de l'inauguration de la Semaine culturelle des Afriques. Donc il est parrain, il va compter, mais en même temps, il est le parrain, en même temps qu'Emmanuel Job, le chanteur.
D'accord.
Donc, merci José. Donc, je sais que vous êtes très amis, mais je ne connaissais pas complètement l'origine. Mais c'est à l'occasion d'un déménagement. Mais avec Irénée, on se relie à Irénée à toutes les occasions possibles.
Tout est possible avec Irénée. C'est vraiment une grande personne. C'est ce qu'on appelle une belle personne. On a souvent l'habitude de dire ça, une belle personne. Moi, je trouve que le terme est vide. Je pense qu'on devrait qualifier les gens, dire comment ils sont. Dire de quelqu'un qui est une belle personne, c'est d'un vide pour moi. Donc, moi, je pourrais trouver tous les adjectifs pour ce monsieur.
Donc, on va pas le dire de
non,
toi.
On va pas le dire ici.
On va pas le dire de José non plus, parce qu'il va dire que c'est vide.
D'accord.
Alors, okay. Je sais pas, Guylaine.
Oui, donc le Mozambique, c'est un pays qui reste dans votre cœur, vers lequel vous allez à nouveau. Comment se maintiennent les relations avec ce pays, votre famille peut-être là-bas aussi?
Alors oui, j'ai toute ma famille au Mozambique, donc c'est 8 frères et sœurs, puis il y en a 2 qui sont partis, dont mes parents d'ailleurs. J'y vais, moi, au Mozambique, j'y allais tous les 2 ans, ensuite ça s'est espacé, et puis, j'ai oublié, je suis devenu papa, j'ai 2 garçons de 20 et 18 ans, et au passage, Mathieu et Jonathan, s'ils m'écoutent.
Ils sont très beaux.
Divorcé aussi. Et donc là, j'habite dans un village, c'est-à-dire que j'ai décidé... Ah oui, c'est compliqué. Allez, on va revenir. Donc...
c'est pas un fleuve tranquille.
Après
hein,
mes
c'est
études,
pas une thèse,
hein. c'est pas un fleuve. C'est-à-dire que je me suis marié avec une dame franco-hongroise. Et donc, on est parti à Budapest. J'ai vécu à Budapest pendant 5 ans. Et je suis revenu avec un divorce. Mais c'était très bien, j'ai passé des bons moments, donc j'ai parlé hongrois, mes enfants ont comme langue maternelle le hongrois justement, avant le français, et ils parlent hongrois avec leur maman, avec moi, donc avant le divorce, je leur parlais en portugais, donc ils parlent portugais, aujourd'hui ils s'expriment, quand ils arrivent au Mozambique, au bout d'une semaine, ils sont des vrais Portugais. Donc à mon retour après, j'ai décidé de m'installer dans un village pas loin d'ici qui s'appelle Sommières. Et j'y suis. C'est le plus beau village au monde pour moi.
C'est un très beau village.
Très très beau village. Et donc j'ai passé le concours de l'éducation nationale. Je suis donc certifié en langue moderne, en littérature donc française. Et j'ai comme spécialité, ce que j'aime le plus, c'est la littérature du 19e. Voilà.
Donc on pourra poser des questions sur la littérature. Hein,
je vous écoute.
Ah oui. Ah mais du coup, tu t'en aperches.
Voilà.
Quel est le dernier livre que tu lis en ce moment?
Ah, le dernier? Non, alors là, en ce moment, je suis en train de lire un livre d'un Américain qui s'appelle Jess Kellerman. Moi, j'adore les thrillers. Mais j'aime bien aussi le 19e siècle. Il y a des thrillers, quand on lit un Balzac, c'est un thriller quand on prend, je ne sais pas. Moi, j'ai préparé mon agrégation justement pendant l'agrégation de lettres modernes. Je rencontrais un écrivain qui est extraordinaire du 19e siècle, qui s'appelle Tristan Corbière, ignoré des Français.
D'accord.
Un breton j'espère que s'il y avait la possibilité ici, je vous lirais un de ses poèmes justement qui s'appelle Le Crapaud. Et l'histoire voudrait que ce monsieur justement qui est mort vers 1890 il me semble, ait écrit juste un seul livre qui s'appelle Les Amours Jaunes. Et comme Rimbaud qui a écrit un seul livre, Les Illuminations. Mais que quand on a découvert le livre de ce monsieur Tristan Corbière et qu'on connaissait déjà Rimbaud, on s'est demandé qui des deux était le meilleur. Mais comme Tristan Corbière était un paysan breton qui habite dans le désert là-haut, au fin fond de la France, on a choisi un beau. Et aujourd'hui, les universitaires se posent la question si on n'a pas eu tort. Voilà.
Écoute, ton histoire me fait penser à ce qu'a dit un jour Saint-Gant, avant qu'il soit président, qu'il enseignait le français aux petits français de France. Et là, de voir les Mozambicains qui arrivent en France, qui enseignent le français aux petits français
en France,
c'est une belle histoire.
Oui, merci.
Je te souhaite le même destin que Senghor.
Il est un peu tard.
Ah, il n'est jamais tard. C'est bon.
Et donc, le lien avec le Mozambique, il reste familial, en fait.
Le lien reste familial et surtout amical. C'est-à-dire que la plupart de mes amis sont rentrés. Et c'est vrai que quand j'arrive là-bas, je suis avec tous ces gens-là. On parle français ou portugais. C'est le seul lien que j'ai avec le Mozambique et avec ma famille. Voilà, tout à fait,
D'accord, alors quand même, nous sommes dans des découvertes, parce que découvrir qu'un paysan breton qui devient écrivain et qui est censé vraiment avoir fait quelque chose de mieux que les Illuminations, il s'appelle Corbière, un breton qui s'appelle Corbière, il faut le faire.
Les Amours Jaunes.
Les Amours Jaunes, en plus. Donc, merci José de nous apprendre aussi, enfin moi en tout cas, j'ai cette révélation, hein, Alexis Corbière. Voilà.
Ok.
Tristan,
encore bien. Donc, bon, j'irai vite sur le net pour voir ça.
On a vu la partie études, la partie intégration professionnelle. Ouais. Et au niveau de la ville de Montpellier, en termes de militantisme, association, parce que tu connais Domboué, c'est un personnage central.
Ouais.
Comment
Incontournable.
Oui.
Donc, par rapport aux associations, comment est-ce que l'association monambicaine, est-ce que... Tu n'as pas le DICAM, mais bon, juste comme ça, quel rôle tu y as joué?
Oui, bah, au CAM, j'étais secrétaire aux affaires culturelles, il me semble, la première année. Et puis et après, il y a eu un personnage assez intéressant, un Gabonais qui s'appelle... Enfin, je pense que maintenant, il est candidat au présidentiel du Gabon qui s'appelle Ngomo.
Ngomo, ah oui.
Et ce monsieur qui a décidé de changer, qu'on pouvait pas être secrétaire général, on devait être général secrétaire ou général président. Je trouvais ça bizarre. Et c'est ça qui m'a poussé à quitter. J'ai senti les bottes arriver quand Ngomo est arrivé et que le secrétaire général ça n'existe plus. Le trésorier, il faut qu'on dise général trésorier. Il m'a fait peur.
D'accord.
Et donc j'ai.
Il se présente actuellement. Il va se présenter au présidentiel au Gabon.
Il me semble. Moi, je trouve que si la présidence de la Maison des Tiers-Mondes du collectif des Africains de Montpellier lui a permis un espèce de tremplin, bah, tant mieux pour lui. Mm-hmm. Mais c'est tout.
Bon, sinon, à part ça, il y a une association quand même de Mozambicains.
Alors, on a créé une association de Mozambicains, mais il faut tu imagines quand même, on était une vingtaine, une trentaine, ça pouvait pas marcher l'histoire. Hein. C'est-à-dire qu'on était quand on a eu le collectif des Africains de Montpellier, on a eu la pression de Georges Frêche justement pour arrêter avec les associations nationales. Et c'est pour ça que, je sais pas si tu t'en souviens, il dit, écoutez-moi, on veut bien vous donner une salle, mais mettez-vous d'accord tous ensemble. Donc les Sénégalais qui voulaient aller de leur côté, les uns et les Camerounais, il a dit non, il faudrait que... Et donc une petite association comme celle des Mozambicains, elle était juste vouée à disparaître. Mmh. Et elles existent, les associations. Je pense qu'il y a une grande association mozambicaine à Paris, des Mozambicains, mais... auquel moi je ne fais pas partie, mais il était difficile ici de créer une association où des Mozambicains allaient se rencontrer quand on était juste une poignée de personnes et que la plupart n'aimaient pas ça.
Le collectif des Africains, c'est vrai que c'est tout un parcours aussi très compliqué, où les uns et les autres, on y allait, on partait, parce qu'on n'était plus d'accord.
Tout à fait. C'est dommage.
Mais c'est vrai que des Mozambicains, il n'y en a pas beaucoup ici, José.
Non, il n'y a pas beaucoup de Mozambicains. À Montpellier, je pense qu'on est... on doit être, je ne sais pas, 5.
Ouais, donc 5, ça fait pas beaucoup.
Inutile de créer une association pour ça.
Oui, ça sert à rien. Je dis 5, je pense que c'est juste pour avoir un chiffre impair. Je pense qu'on sincèrement, je pense qu'il y en a. Il y a un Mozambicain ici qui est connu de quelques, enfin des Montpelliens qui s'appelle Candido Chirinza, qui fait de la musique mozambicaine, voilà, qui habite Argeliès.
D'accord.
Mais sinon, pas plus de 4.
Bon, ben déjà, on est parti au Mozambique. On en revient un petit peu. Et peut-être qu'on va donner rendez-vous la semaine prochaine à José, non? Parce qu'il me semble qu'il ne nous a pas tout dit. Qu'est-ce que tu en penses,
Rémi? Il n'a pas tout dit. Il n'a pas tout dit.
Bon, pour l'instant, on ne l'a pas torturé encore.
Là, José, il a l'impression d'avoir fait un brouillon.
Voilà. Non, mais c'est bien. On était un peu dans l'ambiance.
Non, il y a tellement à dire. Il y a beaucoup de choses à dire.
Oui, il y a beaucoup de choses à dire.
J'aurais aimé qu'on parte sur le nom, justement, parce que c'est intéressant.
On va y revenir la semaine prochaine. On doit se revoir parce qu'on n'a pas tout dit. On est d'accord.
Absolument.
Voilà, donc peut-être que on va faire une pause musicale pour finir. Mmh. On va laisser nos auditeurs sur la tendance musicale et on leur dit au revoir. Voilà. On se dit au revoir.
Et José va nous dire quelle musique on va
écouter. Ah oui, donc là, moi, je vous propose un morceau. C'est une espèce de cantine. C'est une chanson qui est connue des Mozambicains. Elle est du Sud, hein, parce que sachez qu'en Mozambique, il y a 73 langues parlées. Et la seule qui nous unit, c'est le portugais. Donc voilà. Donc celle-là, elle est du Sud, qui est une langue qui est proche du Zoulou. Et c'est l'histoire, en fait, le musicien, en tout cas le narrateur de cette chanson, il raconte, il pleure en fait sa sœur qui pourrait être trop belle, elle devient un pilier où la lune détroquée. au pays.
Ah oui, voilà. D'accord. Bon, donc, le titre en
c'est un blues
en
langue, mozambicain.
Le titre en langue
en shangane.
En shangane, oui. D'accord. Ouais. On se dit au revoir et à la semaine prochaine.
Au revoir à tous.
Au revoir. Au revoir. Bonne chambre, au revoir.
Maria, Antônio, Mia, Mé, o Tateco, a Maringua.